C'est frustrant le cinéma, à haute dose.
J'en ai frustré du reste de la vie, mais il est probable que je n'appréciais pas beaucoup le reste de la vie puisque j'ai tout porté sur le cinéma.
This place makes me wonder.
Yeah, what's that, boss?
Which would be worse? To live as a monster, or to die as a good man?
C'est mercredi et évidemment, c'est le jour de la conve de Vaut mieux en rire. On se retrouve pour un épisode tout particulier puisqu'il est dédié cette semaine au cinéma. Le grand cinéma, le cinéma hollywoodien, celui qui a énormément changé en l'espace de quelques années. Quelles sont aujourd'hui vos attentes quand vous allez au cinéma? Ça, c'est une question qu'on se pose assez régulièrement. On voit que les jeunes retournent vers les films à grand spectacle, les grands blockbusters hollywoodiens. Et on va en discuter avec nos invités ce soir. On retrouve Lucas, bonsoir.
Hi.
Bienvenue dans cette émission.
Merci à vous.
Tu vas nous parler un petit peu de... Parce que toi, t'es moins consommateur de cinéma en tant que tel. Hein.
Ça, non, mais je fais partie de ces rares gens qui disent qu'ils sont pas des grands fans de cinéma.
Bah oui,
c'est ça. Ouais. Mon TDA, je pense, ça m'emmerde très vite.
Bah autodiag.
Non, mais c'est vrai, très autodiag, mais très vrai en même temps. C'est qu'au-delà de deux heures, moi, le film, de toute façon, bien ou pas, je pète un câble.
Fan de Philippe Lachaud, autodiag.
C'est pas un crime en fait. Tu vois, arrête-moi.
C'est un sujet exceptionnel, hein, le cinéma. Franchement, je pense qu'on a tous un avis là-dessus. Il y a tellement de manières de le consommer aujourd'hui qu'on va pouvoir aborder ça dans toutes ses coutures, avec notamment Alexandre qui fait son retour dans la conve.
Exactement. J'ai raté ma conve préférée, qui était celle des aliens, que je vais écouter avec grand plaisir.
Non, mais tu l'as écouté ou tu vas l'écouter?
Je vais l'écouter.
C'était passionnant. On a eu des retours incroyables, mais vraiment.
C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Merci à tous pour vos messages, parce qu'on a reçu des messages absolument incroyables toute la semaine. Mais oui, dis-moi.
Non, j'allais dire, t'as vu que je prends ma voix de la conve?
Oui, bah, comme nous tous, en fait.
C'est la petite voix.
Voilà, la petite voix. C'est un peu plus posé ici.
Exactement. Et je peux m'auto-diag un peu comme Lucas. En tout cas, non, c'est pas que j'aime pas le cinéma, c'est que je suis extrêmement exigeant.
Oui.
Parce que j'ai tendance à très vite soit me faire chier, soit voir les ficelles scénaristiques.
Ah oui, oui, oui.
Ou les incohérences. Ouais. Et pour ça, je suis peut-être un peu trop exigeant.
T'es trop intelligent sur cet art-là,
par rapport aux autres où je suis moins exigeant, je sais pas pourquoi.
On en parlera avec Jason, parce que vu le nombre de films qu'il voit par semaine, je me demande encore comment il arrive à trouver l'excitation, l'adrénaline du cinéma, sachant que tout a déjà été raconté quasiment.
Ça va, Jason? Bienvenue.
Bonsoir.
T'es vraiment notre... Alors, comme on l'a dit, toutes les semaines, on a un grand témoin. La semaine dernière, c'était Gauthier, puisqu'il était notre grand témoin mathématicien.
Pour les aliens?
Oui, pour les aliens, parce qu'il est venu nous apporter le volet scientifique. Oui, c'est qu'on avait un représentant de Mars 2 dans l'émission. La personne de Gauthier. Non, mais il est venu pour le volet scientifique.
Bah, mindfuck. Bah, oui. Pythagore, bien sûr. Bah, grand découvreur.
C'était très, très bien. Donc là, cette semaine, c'est toi, Jason. Est-ce que tu peux nous expliquer à peu près combien de films tu vois par semaine au cinéma?
Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Combien je vois de films au cinéma? C'est très irrégulier. J'essaye, dans l'idéal, de voir un film au moins tous les deux jours. Si c'est pas au cinéma, c'est chez moi. L'année dernière, j'essayais d'en regarder un tous les jours parce que j'avais pas de travail.
Ouais.
Parfois, je peux en enchaîner deux ou trois.
Oui.
J'ai créé en fait une dépendance en plus au cinéma, ou dans le sens où au bout de deux trois jours, si j'ai pas vu de film, j'ai besoin d'en voir.
Ah, mais ça, on va en parler. C'est très intéressant.
Et je veux juste rebondir sur ce que Lucas et Alex disaient, qui était hyper intéressant, que vous étiez TDAH et que vous emmerdiez très rapidement dans un film. Moi, pour le coup, j'ai été diagnostiqué hypersensible.
Ah, c'est pas vrai.
Et le cinéma m'a énormément aidé dans la canalisation de mes émotions et dans l'expression de mes émotions. Et c'est pour moi un véritable outil quotidien de pouvoir pleurer, de pouvoir rigoler, de pouvoir m'énerver et ressortir.
Comme la musique, c'est le même niveau que la musique, je veux dire.
Et être complètement... avoir servi d'éponge pendant deux heures et après on n'en parle plus et je suis beaucoup plus léger.
C'est quand même super intéressant. Pour la troisième conve, je crois, d'avoir Xavier Dolan hyper sensible avec des films de merde, je rigole. En plus, je rigole parce que j'adore Xavier Dolan.
Non, mais d'ailleurs, c'est le président du jury un certain Ringard.
Moi, je suis désolé. Ringard. Juste La fin du monde ou Lawrence Anyway. Je suis désolé, mais ils m'ont marqué à vie, ces films-là.
À ce point-là.
Ah bah, faut y voir ce qu'on peut y voir. C'est comme Lynch, en fait. Lynch, tu rentres ou tu rentres pas. Et bah, moi, je trouve que Dolan, toute proportion gardée, c'est des films où tu rentres ou tu rentres pas. Tu vois.
On en parlera parce que c'est aussi peut-être ce qu'on vient chercher au cinéma, au-delà du grand spectacle. Mais ça permet d'avoir toutes les sensibilités du spectateur. Et ça, je pense que ça pourrait être un thème intéressant. On va en discuter notamment avec Damien.
Bonjour.
Damien, toi aussi, tu consommes beaucoup de cinéma et du cinéma premium.
Oui, j'ai un abonnement, donc j'y vais régulièrement. Pas autant que Jason, mais j'aime bien y aller de façon régulière, au moins une à deux fois par semaine.
Ouais.
Mais parce que moi, en fait, j'ai une consommation avec le cinéma un peu comme avec les bouquins. j'aime bien voir des histoires réalistes qui aident après à vivre le réel, tu vois. À
donner
des,
ça,
à
c'est pour ça que je regarde que les docs, moi.
C'est pour ça que tu regardes du porno, toi.
Non, mais je trouve que c'est, tu vois, c'est la façon dont l'art t'aide à avoir après des idées ou des solutions ou des interprétations par rapport à des situations que tu peux retrouver après dans le réel. Et je trouve que c'est ça que j'aime bien, les films réalistes aussi. Je suis pas forcément consommateur de blockbusters, mais j'aime bien voir les films d'action, mais j'aime bien les films très réalistes ou des biopics ou des simili-biopics. Ou des similés, voilà, de films très...
Inspirés de faits réels. Voilà.
Parce que après, ça t'aide à revoir la réalité.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit déjà, alors que tu nous demandes juste notre rapport au cinéma, et en fait, on voit déjà entre les deux plus, comment dire, exigeants et les deux qui aiment un peu plus le cinéma, tu te rends compte qu'en fait, nous, on est resté un peu, pas sur la surface, mais sur
avec Lucas, sur
l'exercice cinématographique.
Absolument. Oui, bien sûr.
C'est pour ça que je dis les ficelles, les trucs, et alors que vous êtes beaucoup plus déjà dans le message et l'émotion et l'affect. Et du coup, c'est pour ça que vous, et peut-être que juste, en fait, vous rentrez beaucoup plus facilement dans cet art, et du coup, vous l'appréciez 100 fois plus.
Moi, c'est comme le théâtre ou la littérature, c'est en fait, ça t'aide à te libérer, en même temps, à habiter le réel après. C'est vraiment le côté catharsis.
J'ai ça avec les bouquins.
Après, c'est très subjectif parce que déjà, quand tu regardes un film, il y a le mood dans lequel tu es qui joue énormément.
Mais évidemment.
C'est à peu près 50% de ton expérience cinématographique. Oui, ensuite, tu parlais de juste La fin du monde de Xavier Dolan, par exemple. Ça, par exemple, c'est un cinéma qui ne me parle absolument pas.
Ah ouais?
Non, parce que
c'est
une pièce de théâtre filmée.
Mais évidemment, c'est
pas de
Dolan.
Il y a un gros manque de mise en scène. Et moi qui aime, on en reviendra à Dune 2. Je fais un petit pont. Les films contemplatifs comme Dune 2, juste La fin du monde, c'est un peu un anti Dune 2 dans le sens où il y a énormément de fond, il y a une belle écriture, mais il y a absolument rien en termes d'image.
C'est des gens debout dans la cuisine, on est d'accord?
C'est pas l'inverse de Dune, parce que Dune, il y a les deux. Dune, Denis Villeneuve a réussi le pari dingue de faire du grand spectacle et visuel et de toucher à des thèmes d'une manière brillante sur
deux. On parlera tout à l'heure pour Dune 2.
Très bien, très bien.
Mais vas-y, termine ta pensée.
Non, et c'est tout. Je voulais juste dire que il y avait vraiment la manière dont tu vas regarder un film, c'est déjà comment toi tu te sens, si tu es fatigué ou pas.
Est-ce que tu
vas pas y rentrer de la même manière.
Ça, c'est tout à fait vrai.
Est-ce que tu attends de te détendre ou tu attends d'être pris d'émotion? Ça dépend aussi comment t'es dans ton mood ou du jour.
L'attente est essentielle parce que moi, il y a plein de films que j'ai bien aimé tout en sachant que c'est des nanars.
Ouais.
Parce que je suis allé les voir en me disant je vais me faire plaisir sur un nanar.
Oui,
je marche pas comme ça.
Tu vois, alors que vu que je suis très souvent exigeant parce que je me dis tiens, le thème m'attire parce que je vais pas au cinéma 15 fois par semaine. Donc en fait, vu que je choisis vraiment mes films,
oui,
de
faut
ouf,
t'avoir.
Et que le scénar ou l'idée ou tout ça, et j'ai presque un attendu, tu sais, je veux qu'on vienne me parler de ça. Genre, Anatomie d'une chute, par exemple, j'ai été très déçu parce qu'en fait, c'est jamais qu'une vulgaire procès, en plus pas réaliste. Et alors que moi, je m'attendais à, oui, est-ce qu'il va y avoir vraiment, pour prendre cet exemple, une question de la réussite d'une femme face à un homme jaloux, nanana.
C'est pas traité.
Et en fait,
film.
C'est pas traité.
Mais non.
Est-ce qu'il va y avoir le problème de l'intime conviction? C'est pas traité. Et
en gros, trier dit, c'est à vous de vous faire le truc dans votre tête.
C'est ça.
Pour voir dans votre vie
mais
comment
moi,
les
fait,
femmes sont traitées.
Bon. Je viens te demander un peu plus. Ou alors, si c'est à moi de faire le boulot, fais-moi du David Lynch.
Ok, j'entends.
Tu vois, genre mon challenge-moi
oui,
vraiment.
Oui, viens me chercher.
Non, mais c'est un débat passionnant. Vas-y, Jason, ajoute un petit mot et après on se retrouvera après.
On passe la compagnie.
C'est parce que vous avez des attentes quand vous allez voir un film. Et c'est normal, on a toutes des surtout quand on voit peu de films. Dans ces cas-là, on a une sélection à faire.
Ça, c'est très
moi
vrai.
Qui vais en voir plein, je ne regarde plus ni les synopsis, ni le casting,
ah ouais
ni les. En fait, je me base uniquement sur trois points qui sont l'affiche.
Ah, il faut pas. Surtout pas parce que c'est pas les distributeurs ne sont pas les producteurs. Faut se méfier des affiches.
L'affiche. Mais après je vais tous les voir même si l'affiche est
mauvaise. Oui, de toute façon voilà, tu vas quand même
les réalisateurs et réalisatrices et surtout les Oscars, les Césars, les prix.
C'est un vrai argument pour toi ça?
À 100%.
Moi de moins en moins
parce que je déteste, j'adore les cérémonies et je trouve que donner un prix ou au moins nommer un film, c'est qu'il y a quand même un espèce de consensus et de la presse et du public autour de certains films. Donc je trouve ça intéressant. Après il y a des deux côtés des grosses incompréhensions.
Un consensus pas forcément pour les bonnes raisons autour des films.
Merci Damien.
Ça, on pourra en parler, mais notamment les Césars, ça montre très bien, c'est qu'on parle. En fait, c'est des cérémonies sur le cinéma, mais on parle plus de cinéma. On parle de tout ce qui est autour de la société, mais on parle plus de cinéma.
Parce que le cinéma n'a plus rien à dire.
La technique et du contenu, forcément. Non, mais c'est pas.
C'est un débat intéressant et c'est aussi un débat politique qu'on aura dans quelques instants, parce qu'évidemment, sans poindre les différentes thématiques que chacun peut aimer ou pas dans les cérémonies de récompense, ça fera l'objet d'un petit mot qu'on aura notamment avec Damien en fin d'émission. Et juste avant, évidemment, on va parler de Dune Part 2 qui est sorti il y a une semaine au cinéma. Mais avant ça, on va s'écouter un petit peu de musique, hein, bien sûr, évidemment. C'est toujours la marque de cette émission.
Eddie Mitchell, La lumière revient déjà.
Ah oui, j'adore cette chanson.
T'as exactement lu dans mes pensées, puisqu'on écoute la dernière séance d'Eddie Mitchell et on se retrouve juste après.
Bah.
Elle a à peine fini de me sucer.
Allez, on reprend.
J'ai joui dans les bras.
Eddie Mitchell, la dernière séance. J'adore cette chanson.
J'adore.
C'est exceptionnel. C'est une super chanson.
Sur la route de Memphis.
Et c'est bien la preuve que, de toute façon, le cinéma, au-delà d'être un moment de, soit de partage, ou soit même d'y aller seul, hein, ça marque beaucoup plus que le 7e art. Ça a un petit peu été transversal dans la culture. Ça, c'est devenu évidemment la culture pop qui est représentée énormément dans le cinéma. Aussi sur Internet. Parce que je ne sais pas si vous regardez, mais les thématiques principales sur les réseaux sociaux, c'est quand même, ça reste le traitement du 7e art, et puis évidemment le fait qu'avec les plateformes de streaming, le cinéma, ça soit devenu extrêmement facile d'y accéder.
Le cinéma, c'est peut-être l'art le plus démocratique au monde. Parce
exactement.
Que même au-delà du tarif des cinémas, tu peux quand même accéder, même sur Internet ou par des façons légales ou non légales, à tout un panel de films.
Et même gratuitement, des fois, France TV, tout ça. Hein.
J'inclus aussi les séries, même si les séries, c'est des façons de traiter différemment. Mais en tout cas, l'écran, la fiction et l'art écran est devenu quelque chose de très accessible.
Bien sûr.
Et quand tu penses à il y a 20 ans où tu avais le film du mardi sur TF1, puis le film du vendredi. Aujourd'hui, c'est des émissions toutes plus insipides que les unes que les autres. Mais à l'époque, le cinéma était encore plus démocratisé. Aujourd'hui, avec Netflix et tout ça, clairement, ça l'est encore plus. Mais moi, je pense surtout que ce qui marche dans le cinéma, c'est surtout que, et c'est aussi ce qui fait qu'on est très exigeant, je pense, c'est que le cinéma étant principalement, c'est un art indépendant, mais à la convergence de plein d'arts.
Ouais.
Le cinéma sans bonne musique, c'est de la merde. Sans bonne photographie, c'est de la merde, ainsi de suite. Et du coup, pour faire un bon film, à mes yeux, il faut réussir dans toutes ces fucking catégories.
C'est d'autant,
tu vois.
Mais est-ce que l'évolution récente du cinéma n'a pas dégradé cette expérience-là ?
Si, parce qu'en fait, c'est devenu un cinéma de consommation. Un peu comme, de toute façon, tous les arts et tous les secteurs d'activité de la société, c'est devenu un secteur de consommation où les plateformes ont démultiplié les productions, ce qui fait qu'on a à foison du contenu, ce qu'il n'y avait pas il y a 30 ans.
Le mot contenu, on peut s'arrêter dès le départ.
C'est vrai.
Le monde du cinéma a changé, et pour moi, il a perdu de sa splendeur quand on a commencé à parler de contenu au lieu de parler de film.
Comme pour YouTube.
Ça dit quelque chose de comment tu considères l'art. Tu considères l'art comme un produit pur. Une banane, une fraise tagada, quoi. Que tu peux vendre.
Tu peux regretter, mais c'est devenu comme ça. Parce
bien sûr.
Avec, par exemple, Netflix Prime ou Disney qui veulent créer le plus de films possible, t'en as peut-être des dizaines qui sortent chaque mois.
C'est trop.
Et t'en retiens qu'un seul, voire zéro sur le mois.
C'est beaucoup trop.
Et en fait, c'est devenu. T'es tellement assommé ou inondé de contenu, justement, qu'après, t'as du mal à faire ton choix et c'est devenu un peu la consommation de masse. T'essaies d'en voir le plus possible pour essayer de dire j'ai vu le plus possible de ce qui est sorti pour en parler. Mais et en même temps, t'as du mal à te faire un avis concret sur les.
Là où je suis d'accord, c'est ça représente bien ce que je pense, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une surdomination du script. Il y a une surdomination du dialogue. C'est-à-dire que tout le reste s'efface. La bonne photographie s'efface. La bonne musique s'efface.
C'est plus rare. Ouais.
Je trouve que, surtout sur les plateformes de streaming,
est
intéressant,
sur les plateformes,
c'est d'avoir quelque chose qui va retenir en termes de script.
Mais oui,
parce que les gens ont besoin de savoir ce qui va se passer dans les 5 minutes, ce qui va se passer dans les 10 minutes.
C'est les séries qui ont fait ça.
Comment est-ce que ça va se finir ? Est-ce qu'il va y avoir un twist ?
L'écriture sérielle a fait beaucoup de mal au cinéma.
Et c'est cette écriture-là qui prédomine sur tout le reste.
C'est celle qui accroche le plus les gens.
Mais
c'est l'offre et la demande.
Mais parce que sinon, les gens zappent, alors que quand elle est au cinéma, pour te lever et sortir de la salle, c'est autrement plus engageant que de prendre ta télécommande pour changer de film.
Les plateformes de streaming, elles ne sont pas là pour donner du cinéma, elles sont là pour, on en a parlé, donner du contenu et du divertissement.
Des films, pas du cinéma.
Netflix ne considère pas le cinéma, pardon.
Non, Netflix, son cahier des charges, je pense, ça fait énormément de mal au cinéma, mais uniquement au cinéma qui est sur Netflix. Mais quand on touche à tous les genres, que ce soit de la comédie musicale, que ce soit du thriller, du film d'horreur, de la comédie romantique, peu importe, on peut tous les citer. Tous les films Netflix, dans tous ces genres, sont très très médiocres. Il n'y a pas un film Netflix qui est sorti, on s'est dit, waouh, quelle claque.
Mais sauf que le problème, c'est qu'il y a encore dans les salles des films qui sont très proches parce que justement, ils veulent se calquer sur une écriture streaming. Mmh. Alors, pas les gros,
Marvel, les premiers.
Les Marvel récents, par exemple, c'est de mauvaise qualité.
Oui, mais les Marvel récents, c'est de mauvaise qualité. Enfin, pour avoir un point de vue sur Marvel, ça fait 15 ans que ça dure. Je ne vois pas, moi, qui n'ai jamais apprécié Marvel, de grosses différences entre les trois dernières années. Non, je te le dis vraiment. Et les premières. J'ai l'impression que peut-être il y a une lassitude de votre côté. Vous qui en avez consommé beaucoup.
Alors déjà qu'en plus, les frères Russo ne sont pas des grands réals.
Ouais.
Même Avengers, c'était le réal, c'était comment il s'appelle.
Tu compares le premier en 2006-2008, les premiers, t'as quand même une plus grande finesse dans l'écriture.
John Favreau, c'était quand même autre chose, pardon. Dans l'âme, dans la réal, dans le.
Je ne suis pas d'accord.
C'est des films de super-héros, je m'entends. C'est pas. J'allais dire, c'est pas Anatomie d'une chute. Ça, c'est sûr.
L'évolution de John Favreau. La merde qu'il nous a fait sur Boba Fett, je suis désolé.
Ah, je suis pas d'accord.
Pour moi, c'est exactement ça. C'est. Bon, en plus de l'objectif script qui n'est plus l'objectif cinéma, t'as en plus l'objectif, on te donne un time maintenant. Ouais. On te dit, il faut que tu me rends une saison de 8 heures.
Oui, c'est des fileurs.
Sauf qu'il a 4 heures d'événements. Ouais. Et du coup, il te double les plans. Mais en fait, t'as que des. Et ça, je suis désolé, c'est un peu violent, mais c'est pour moi tout ce qu'on a critiqué sur les derniers Star Wars repris par Disney. C'est-à-dire que t'as l'impression que tu peux sortir 3-4 objectifs demandés par la prod, etc. Ouais, la réalité, c'est qu'il n'y a jamais le cinéma au centre. Tu sais, c'est comme on dit dans le sport, quand le football n'est pas au cœur du projet, ouais, ton truc, ça. Il va casser la gueule. Et bah là, c'est pareil. Quand tu fais pas pour la beauté du cinéma, bah, il y a un moment, tu sais que les gens vont pas y aller. Enfin, ils vont y aller parce que c'est la thune.
Mais ils n'y reviendront plus.
Mais ils n'y reviendront plus de moins en moins. Et ça, tu vois, et je pense que Marvel et tout ça, c'est
mais,
un peu de ça.
Mais c'est intéressant que tu évoques ce sujet parce que ça va nous permettre de parler d'un projet qui est en ce moment au cinéma depuis une semaine, qui lui est centré vraiment sur un matériel qui est très vieux, qui est un livre de science-fiction. Le premier grand livre de science-fiction.
Antérieur à toutes les œuvres de Star Wars, faut le dire quand même.
C'est un livre qui a été la fondation de toutes...
C'est drôle de dire ça.
Enfin, la fondation, pas la fondation, le livre, mais c'est la fondation, la genèse Tu sais, j'avoue qu'il dit un mot, c'est un livre connu. C'est vraiment notre Bible.
Mais tu dis pas ça par là, parce que Dune a quand même vraiment
pour
des inspirations
messianiques. Plus notre Coran que notre Bible.
Absolument.
Mais c'est tout le problème de ce film.
Alors attendez, on fait un point et
c'est
après vous y allez. Donc Dune de Frank Herbert, c'est la fondation de la science-fiction, mais depuis toujours. Depuis toujours, la science-fiction cinématographique s'est inspirée de Dune, qui est un monument de littérature.
Sorti
mais vraiment,
quand déjà,
qui est sorti dans les années 50, ouais, 50. 57, il me semble. Ouais. Donc c'est un fantastique, une 1800, fantastique hein. histoire. Après 65. Plusieurs. 65. Après des essais extrêmement infructueux comme Jodorowsky ou parfois certains pourront dire Lynch, il y a une adaptation qui est en tout cas la plus proche de l'esprit du livre le scénario colle.
Il y a des moyens, quand tu compares le dernier qui est de Lynch, forcément, ce n'est pas les mêmes moyens non plus.
C'est ça,
c'est
la CGI.
Dune,
il n'y a quasiment aucun. C'est pas un bon argument parce que Dune, il n'y a aucune image dans le studio. Hein. C'est que de l'image dans le désert.
C'est pour ça que ça rend bien d'ailleurs.
Et après, tu as de la CGI, mais de manière très, très, très fine. Même quand ils sont sur les verres, ça a été vraiment fait avec des grues,
on se rend compte que ça rend mieux en fait.
De toute façon, ça se sent dans le film. J'adore.
Oui, on en discutait en off.
Parce qu'on a vu le film ensemble. Enfin, on l'a vu ensemble mardi.
Oui, exactement.
Mardi de la semaine dernière.
Et quand on est sorti, on a parlé justement des effets spéciaux et on s'est dit, je sais plus ce que je voulais dire.
Ah ben bah ça arrive, ça m'arrive.
Grave, t'inquiète.
Effets spéciaux, réalisme.
En vrai, quand tu parlais de Dune, il a quand même pris des libertés dans le premier film. Enfin, moi j'ai vu que le premier, du coup pas encore le second. Par rapport au livre, pour s'adapter aussi aux enjeux actuels.
Ouais. Alors pour s'adapter.
Quand il change un personnage masculin pour une femme, par exemple.
Pourquoi?
Parce que il veut aussi coller à des thématiques actuelles. Tant mieux, hein, ça change pas le fond du film. Mais
ça change rien dans le film.
Mais c'est
dans le méchant, il l'a fait blanc.
Bah, pour moi, je pense que j'ai pas vu le 2, je sais pas comment ça se passe dans le 2, mais sur le premier, pour moi, il a pas lu le livre. Enfin, il l'a pas lu correctement, il n'a pas compris ce que Dune racontait.
Pourquoi?
C'est l'article du Point cette semaine, c'est la critique du Point cette semaine et c'est très intéressant. Grosso merdo, Dune ça raconte quoi? C'est l'Occident contre les Arabes, en vrai. C'est ça la rhétorique. C'est ça que raconte Frank Herbert. Il inverse le processus et pour une fois, il se met pas dans le côté des catholiques, il se met du côté des Ottomans. Grosso merdo, c'est ça Dune. La lecture de Dune, c'est ça normalement. En tout cas, c'est comme ça qu'il a écrit. Comme Dune est un film populaire familial, ils ont totalement effacé. En fait, le seul intérêt de ce bouquin, c'est la guerre de civilisation.
Tu vois Dune partout.
Le 1, très sincèrement, il m'a manqué au moins 10 000 lignes de dialogue pour comprendre quoi que ce soit. Alors j'ai lu les bouquins, je connais très bien Dune. Si ces problèmes n'ont pas été réglés dans le 2, je vous le dis, je vais trasher le film. Parce qu'au-delà des acteurs et du visuel, pour moi, pour l'instant, Villeneuve n'a pas compris ce que racontait Dune. Il a compris différemment.
Ce qui est intéressant, parce que j'ai lu un article, après je te laisse, j'ai lu un article comme quoi dans Dune 2, il reprochait presque d'avoir un peu trop de dialogue et trop de phrases.
Eh ben tant mieux, moi je suis ravi. C'est comme Star Wars, je préfère Star Wars qui fait politique, moi. Mais
si tu veux, dans Dune, c'était impossible de faire un film selon Denis Villeneuve, et le deal, c'était de dire, pour adapter Dune, il fallait faire au moins 2 films.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est comme ça qu'il a réussi à avoir ce deal de faire Part 1 et Part 2. La première partie,
il a fait partout.
Il y a Part 3 qui est en développement.
C'est autre chose.
En écriture.
En fait, le livre principal, Dune, est adapté
sur la partie 1 et la partie 2 du film de Denis, des films de Denis Villeneuve. Donc la première partie, elle est vraiment centrée sur la base de l'univers. C'est vraiment le comment est-ce que tu expliques aux gens quelles sont les familles, quel est le rôle de Paul.
Ça pose
dans...
le plot en fait.
Voilà, c'est exactement ça.
C'est une belle impression. Et petite ça, question, Wissem.
Oui.
Parce que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas vu le 1 et qui ont envie d'aller voir le 2. Je l'aurais déconseillé.
Moi, je déconseille de voir la partie 2 sans avoir vu la partie 1.
Après, mais surtout, les gars, vous y allez jeudi. Bah regardez-le mercredi quoi.
Oui, et puis même
c'est pas non plus très dur d'aller voir un film.
Non, oui, et puis là il est passé sur TF1 dimanche dernier, donc je pense qu'il y a plein de monde qui en a profité pour le regarder.
Moi, j'ai regardé d'ailleurs pour juste avant, parce que je sais que je vais le voir du coup, et j'ai regardé un parce que même alors c'est un peu alors, je prends exemple, c'est comme un peu Game of Thrones, il y a tellement de personnages de maisons qu'il faut quand même des fois se remettre dedans pour après comprendre les liens entre chaque personnage et chaque famille, parce que c'est quand même assez complexe des fois.
C'est une série d'une, c'est pas un film.
Mais je peux comprendre que non, je pense que ça peut être.
Ça ferait une excellente série.
Non, ça peut être qu'un film, parce qu'il n'y a que sur un écran de cinéma.
Ah, ça, je suis d'accord.
Il n'y a que, je dirais même plus, et je pense que Damien et moi, on est un peu similaires sur ce sujet, parce qu'on aime bien ce qu'on appelle the premium screens.
L'expérience.
Donc, c'est les écrans haut de gamme. Donc, c'est soit aller en Dolby Cinéma, soit aller dans une salle IMAX. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir autour de chez vous, Dune, ça se voit en IMAX. Dune, ça se voit en Dolby Cinema.
C'était l'argument d'Avatar, ça reste une bouse intersidérale. Hein.
Ouais, mais sauf
intrinsèquement, je veux dire. Moi, je veux bien. Je compare pas à Dune parce que Dune, c'est quand même bien.
Je peux comprendre ton avis. Mais effectivement, Dune, on l'a vu en IMAX avec Jason. C'est fait pour être vu, notamment par la beauté des plans.
Les plans. Alors, Denis Villeneuve est aussi super réel, attention.
Et aussi la beauté des plans sur les visages, sur les mains.
Sur le golf de Chalamet en deuxième heure. C'est fait pour être vu en IMAX.
C'est fait pour être vu en IMAX.
Au-delà de ça, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est pas justement les gros plans, mais les plans très très élargis, où tu as des vues perdues de dunes à des kilomètres et tu vas voir un tout petit personnage ou un verre, etc.
C'est sur l'immensité,
qui redeviennent et qui rend Denis Villeneuve est très bon pour ça, il rend justice vraiment à la nature.
Totalement.
En toujours ramenant l'homme à son importance dans chaque plan.
L'écologie, donc qui est un point très important dans Dune, que ça soit le livre, alors qu'on est dans les années 60, hein, déjà au cœur du livre, et tu as raison de le dire, Lucas, les questions civilisationnelles qui sont au cœur et religieuses.
Moi, je dirais ça, et c'est pas non, parce que ça inverse le truc
Dune,
pour une fois.
Et ce qui est exceptionnel, c'est que dans la partie 1 et dans à peu près la moitié de la partie 2, tu comprends où va petit à petit le personnage, où vont toutes ces différentes maisons.
Mais voilà, parce qu'en fait, le premier, c'était pas clair. Si tu vas à la fin du film, je me disais, and so what?
Ouais,
et j'avais pas d'enjeu.
J'ai suivi un mec.
Et... Dans la rue, tu veux dire? C'est du pénal, ça, tu fais gaffe. Hein.
Non, mais j'ai suivi, comment il s'appelle, Chalamet dans le film? Enfin bref,
Paul,
j'ai suivi Paul Atreides et bah oui, and so what. C'est-à-dire que quand tu suis, je suis désolé, même s'ils ont l'antériorité, quand tu suis Luke Skywalker dans le désert, etc. Bon, au-delà du fait que c'est à peu près évidemment la quête du héros classique, je demande pas ça, mais en fait, j'ai ce rôle.
Mon
bon,
destin l'appelle, etc.
Bon, ça, très classique. Mais par contre, tu sais que Luke, même à la fin du 1, même s'il y a une petite fée-fête, tu sais que son boulot n'est pas fini parce que tu sais exactement qui doit renverser, dans quelles conditions, avec quels moyens.
On parle quand même d'un personnage dont toute la famille vient d'être massacrée. Il rencontre un peuple qui a la possibilité de le venger.
Oui, bien sûr.
Et qui l'accepte avec lui. C'est-à-dire, en termes d'enjeu à la fin de Dune 1,
c'est pas clair.
Et surtout, quand je rappelle, lui, il ne vient pas de cette planète. Il en parle très bien dans le 2, d'ailleurs. Il vient d'une planète où il peut nager dans l'eau.
C'est ça.
Est-ce que votre souci, c'est pas Chalamet dans ce film? En vrai.
Non, mais rien à voir.
Mais pas du tout.
Non, rien à voir.
Absolument pas, il est brillant.
Et attends, mais sur l'épaisseur du personnage.
Après, Wissem.
On parle quand même de quelqu'un qui, dès le 1, est appelé à un destin messianique, et quand il arrive sur la planète, les gens s'agenouillent en le voyant. Je veux dire, l'arc du personnage est déjà construit d'une part.
Mais justement, moi je suis d'accord avec Lucas dans
c'est
le
pas
sens où,
dans le 1,
et d'ailleurs avec ce que tu disais tout à l'heure, là tu viens de me donner le scénar. La réalité, c'est que moi je compare parce que c'est comparable. Moi, Luke Skywalker, non seulement il en veut pas à la base, mais en plus il n'est pas le chef dès le début. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas fait pour être le chef. Et il n'a pas la capacité. Et donc, toi, en tant que spectateur, tu suis le mec qui ne deviendra chef en réalité qu'à la fin de la trilogie.
Faut pas comparer.
Tu vois ce que je veux dire ?
Non, après, la comparaison, à un moment,
non,
ça
arrête,
parce que c'est pas ça. C'est construit différemment.
Mais justement,
après, c'est compliqué. Il faut voir.
Évidemment, mais c'est pour ça que
moi, je suis déjà Lucas. Tu es exactement dans la même erreur que celle avec laquelle j'ai démarré ma phrase. Tu me parles scénar. Moi, je vous parle, comment dire ? impact et construction d'un personnage. Et la réalité, c'est que Paul, en tout cas, j'ai vu que le 1, hein, Paul n'a pas les épaules. C'est un truc qui le dépasse 100 fois. C'est évident. En plus, c'est galactique, c'est là.
Mais tu l'as compris,
et,
ça.
Et en fait, il n'a pas les épaules, mais tu le mets tout de suite là-dedans et tu me le mets un peu quand même en badass. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'il a pas les épaules et il doit pas les avoir pendant 20 ans, ce mec.
C'est amené un peu trop rapidement.
Mais bien sûr.
Non, alors, je pense que nous, on a compris peut-être autre chose du 1 parce qu'on a vu le 2. Ouais. T'inquiète pas peut-être. Que Paul lui-même pense qu'il n'a pas les épaules. Ouais. Et Paul lui-même n'est pas du tout à l'aise avec ce rôle.
Non, mais il faut absolument voir d'une part pour comprendre l'arc global.
Et pour avoir trouvé, et pour terminer sur le sujet, pour avoir trouvé le 1 un peu confusing, et je suis sorti, je me suis dit, c'est beau, c'est incroyable, c'est génial. Je n'ai pas tout compris, mais après, ce n'est pas forcément mon type
c'est
de film.
C'est exactement ce que je me suis dit
en sortant. Ouais. Le 2, je suis sorti, je me suis dit, je n'ai pas de souvenir ou très peu de souvenir de la dernière fois où on a écrit un personnage aussi bien.
À ce point ?
À Paul ? Okay. Les trois arcs de Paul.
Mais après, le personnage dans le bouquin, il est passionnant parce que c'est rare les héros qui sont entre guillemets bourgeois de naissance.
Mais surtout, il est détestable.
Il y a ce côté héritage qui marche très bien.
Il devient presque un anti-héros.
Mais bien sûr.
Non, mais sans spoiler.
Mais c'est pas noir blanc. Hein.
Non, mais sans spoiler, parce qu'il faut voir le film. Quand on parle d'une trajectoire messianique, du rôle de la religion, du rôle de l'adulation et à quel point elle peut avoir un pouvoir sur les peuples, je pense qu'en termes de traitement de cette information-là, on a rarement vu ça au cinéma.
Ok. Eh ben, et je pense que
ça n'a jamais existé.
Mais, dans le 1, c'est beaucoup trop rapide. Enfin, c'est pas.
C'est pas exploré.
Non. En fait, il s'explorait très superficiellement. Ouais. Et du coup, ce qui fait que c'est compliqué. Moi, j'ai dû revoir une seconde fois. Bah, quand j'ai revu la seconde fois, un an après, 12 ans après, du coup, la semaine dernière, c'était beaucoup plus clair parce que en fait, je connaissais la fin. Enfin, la fin, du coup, pour revenir au début. Et, alors que je pense que dans Star Wars, c'est quand même amené de façon plus limpide dès le début.
Totalement. Oui. Et il faut dire une chose, c'est que le bouquin Dune, de base, n'a pas une construction logique. C'est foutu bizarrement.
Absolument.
C'est très contemplatif. Peu scénarisé en vérité, c'est pas un roman d'action
le film Villeneuve. Aussi, hein.
Non, mais justement, je pense que Villeneuve a su, parce que c'est quand même un bon réel, tu peux injecter de la mise en scène pour rajouter un peu de rythme.
Ouais, mais c'est très contemplatif quand même.
Oui, ah bah c'est d'une.
On va juste s'écouter un petit bout dans Zimmer, puisqu'il a composé une magnifique partition. Parce
c'est
que
un autre
Dune,
sujet, ça.
Dune, c'est aussi une histoire d'amour. Une histoire d'amour.
Tu l'as un peu dit déjà
comme ça. Dune, c'est aussi une histoire d'amour fantastique.
D'une femme. Et d'un homme.
D'un homme et d'une femme.
Les titres de Libé.
Oui,
là.
C'est ça. Un homme et d'une femme. On va s'écouter un peu dans Zimmer parce que le rôle de Shani et de cette relation amoureuse est absolument primordial dans Dune Part 2 et vraiment
que
ça fait
d'ailleurs.
Partie de moins
y a
et,
pas
on, et donc on s'écoute un petit bout de dans Zimmer si je puis dire et on se retrouve juste après pour finir cette discussion ensemble. De retour dans la conve de Vaut mieux en rire, on va juste dire un petit mot de conclusion sur Dune. On le conseille avec Jason parce qu'on a été très touché.
Ah mais vous m'avez convaincu.
On a été très touché par cette œuvre, ces choix. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues au cinéma, moi je trouve.
Sauf faut le voir parce que c'est un film que tu vois au cinéma et comme Avatar et pas à la télé chez toi.
C'est ça.
Et
complètement.
En plus, comme on sait,
j'ai vu Avatar à la télé. Je peux dire que ça se voit pas à la télé. Ça, je peux vous.
Non,
dire.
Je suis pas sûr qu'au cinéma. Moi, c'est pas un film à l'écriture très raffinée. C'est un film visuel. Il faut le voir avec l'écran qui va avec.
Ouais. Par contre, ce qui
c'est
est sûr.
C'est du cinéma spectacle.
Mais c'est pas grave.
Ce qui est sûr, c'est que dans le marasme, parce qu'on l'abordera aussi cette question, mais dans le marasme global du cinéma depuis 10 ans, je vais voir les films maintenant comme Dune, que je vais aller voir demain avec grand plaisir, en me disant, là au moins il y a un effort. Je sais pas si j'accrocherai, si nanana, mais en tout cas, il y a des fonds mis à bon escient.
Il y a l'artistique.
Il y a un mec qui travaille Tu vois, il y a de l'artistique, c'est pas juste pour faire de la tunasse, etc. Et moi, après que j'aime ou que j'aime pas, au moins j'aurai le respect de ça. Ouais. Tu vois, et aujourd'hui, à la base, il y a 10 piges encore, c'était la base.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, ça devient un argument pour aller
c'est
voir un film.
C'est pas vrai, bien sûr. Si, le, non, si. Cet argument du c'était mieux avant dans le cinéma, il n'est pas vrai.
Non, je dis pas que c'était mieux avant, plus bossé, je dis que c'était pas bossé de la même manière.
Il y avait moins mais mieux.
Non, c'est juste qu'en fait, honnêtement, on revient à l'impact des plateformes, c'est qu'avant, t'avais moins de films. Et
voilà.
Et aujourd'hui, t'as peut-être autant de bons films, mais t'as en même temps une masse de films moyens à côté. Parce que t'as peut-être 10 fois plus de films produits à l'année, tu vois.
Mais je me souviens qu'à une époque, j'allais voir le cinéma autant qu'aujourd'hui. Et je suis désolé, aujourd'hui, si j'ai un coup de cœur par an, c'est déjà pas mal. À l'époque, j'en avais quand même beaucoup plus, tu vois.
Non, mais ce qui a changé, là où t'as raison, c'est que je pense que notre génération qui retourne au cinéma, elle a envie d'être respectée. Et c'est-à-dire qu'elle elle a envie d'être respectée et elle s'en fout d'aller faire des films qui durent 3 heures comme Oppenheimer qui est un biopic d'un mec qui est juste physicien en gros parce que c'est ça le plot.
Sinoche.
Mais il est physicien, c'est un film, c'est un biopic sur
un
physicien.
Mais sur le papier, ça fait jamais un milliard, ça je veux dire.
Jamais de la vie. Et pourtant, parce qu'on l'a respecté, parce qu'on l'a raconté
ça fait très politique aussi, absolument, c'est pas juste un biopic.
Parce qu'on l'a raconté de la bonne manière avec une bonne musique et avec une bonne image, on respecte et il y a pas tant de dialogue que ça. Hein.
C'est vrai, Oppenheimer, oui, c'est vrai.
Mais parce
c'est
que Oppenheimer reste aussi un film spectacle.
C'est
faut
vrai.
Faut le voir aussi en IMAX, en Dolby Digital.
Oh, ça marche à la télé. Ouais, je l'ai vu en 4K là,
je pense que c'est moins bien à la télévision.
Oui, mais c'est toujours moins bien, mais bon.
C'est une expérience qui est moins bonne.
Pour moi, c'est le même respect. Tu sais, il y a souvent les gens qui distinguent, à juste titre, les films, pas d'auteur, mais les films un peu intéressants, nanana, avec les films trop spectacles, genre Marvel, qui est la caricature. Et moi, je trouve que les meilleurs films, et ceux qui font les meilleures entrées, parce que les fils ou les pères en parlent en famille, ah, va le voir, ça va te plaire, etc. C'est toujours la même catégorie. C'est Oppenheimer ou Enigma, là, je sais plus comment ça s'appelait, là, Alan Turing, oui. Ou version française, les fameux Chant du Loup ou Boîte Noire.
Excellent.
C'est-à-dire que t'as à la fois de l'action, du suspense et, mine de rien,
Imitation Game,
merci. Il est exaspéré. Et t'as en même temps une propale de cinoche.
Mais je suis pas d'accord.
T'as des plans, t'as des trucs.
Ce qui a ramené les gens au cinéma après le Covid, c'est les blockbusters. Qu'on veuille ou non, c'est les films que tu critiques.
D'accord, mais c'est ce que c'est du cinéma.
Le premier film qui a ramené du monde.
C'est eux qui ont porté le cinéma financièrement aussi depuis Covid.
Mais ça, c'est le deal du cinéma depuis 50 ans. Ça marche comme ça.
On doit faire avec.
Top Gun Maverick a ramené tout le monde dans les salles.
Mais un vrai moment cinéma,
mais
là encore.
Pareil, Top Gun, ça a cartonné parce que même si ça dure 2h30, oui, c'est quelque chose qui est bossé.
On te respecte, je veux dire. Oui.
C'est
voilà.
Bossé.
Donc Rudy Boss.
Quand t'as une musique qui tombe, elle tombe au bon moment parce qu'elle est écrite à ce moment-là, pour ce moment-là, avec tout le monde.
James Bond,
c'était pareil.
Enfin, après, Top Gun, t'as tout à référencer là aussi parce que t'as le premier et t'as aussi toute une génération qui a voulu voir la suite 40 ans après.
Ouais, mais
ça
aurait pu faire un Ghostbuster qui a flopé.
Parce qu'il est bien travaillé, mais c'est un film qui a réuni nos générations. À nous, oui. Et celle de nos parents.
La promesse marketing était forte.
Exactement. Ouais, et parce que après, il a fonctionné par le bouche-oreille parce qu'il est bien travaillé. Ouais. Il a tout avec. Donc,
ce qui m'a fait plaisir aussi l'année dernière, c'est que pour la première fois dans le top 3 des films les plus vus dans le monde, il n'y avait ni un Marvel ni une suite. Ça faisait 10 ans qu'on avait uniquement énormément de Marvel et de suites de Mission Impossible.
Ça reste des grosses licences, hein, mais c'est des licences fraîches, on va dire.
Non, mais c'est des nouvelles licences. Ce n'est plus événementiel d'aller voir un Marvel aussi.
Non. Mais bien sûr que non.
Ce n'est plus événementiel d'aller voir même un film
parce
d'animation.
C'est un peu écumé, quoi. Il y a tellement eu de Marvel qu'à un moment donné, c'est plus l'exception et c'est plus l'innovation.
On est de retour dans Laurence d'Arabie.
Mais bien sûr.
Mais oui, on est de retour dans les 10 commandements.
C'est 10 ans, c'est des
on est de retour dans les 10 commandements. C'est ça, c'est des grandes fresques, ça dure 3 heures.
C'est 10 ans, c'est des cycles. Je pense qu'on n'a pas assez de recul sur l'histoire du cinéma.
D'accord.
Pour dire ça.
Mais là, clairement, la phase super-héros, blockbuster débile américain, je crois qu'on est relativement sorti de ça. En termes de succès, je veux dire, hein, pas de production.
On n'aurait jamais dû y rentrer.
Pour revenir plus généralement sur ce qui est devenu, d'ailleurs, la question c'est le cinéma ou des cinémas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens, à l'exception de toi, qui, je pense, est une grande exception, Jason. Je pense qu'il y a des gens qui vont voir que des Marvel.
Évidemment.
Des gens comme moi qui ne vont voir que autre chose que des Marvel, ainsi de suite.
Non, mais
donc
attends,
en fait, c'est très bête. Hein.
Alors, les gens qui. Alors, on a la chance de vivre dans des grandes villes. Nous, on représente ceux qui avons une carte UGC, qui allons très, très souvent au cinéma voir des trucs qu'on pourrait voir sur Canal. Et encore, Canal, je parle encore d'un truc qui est hyper élitiste. On représente personne.
Bien sûr.
Non, personne ne va voir Anatomie d'une chute au terreau au cinéma.
En même temps,
personne.
Imagine, nous, on est abonnés, on est jeunes. T'es une famille, t'as deux adultes,
mais
deux enfants.
Sûr.
Le prix que ça coûte pour un cinéma, tu réfléchis à 10 fois avant d'aller voir un film et tu vas voir un film qui a plaire à tes enfants.
C'était juste mon intro de phrase. Mais non, mais je veux dire, les gens vont voir leur catégorie, en fait. Et les gens, même à la campagne, enfin, il y a plein de gens qui vont souvent vont au cinéma quand même et qui en fait vont voir que des comédies ou que des délires, etc. À l'exception peut-être de Une Vie ou tu sais des grands trucs qui marchent bien et qui voilà. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que moi par exemple, qui suis globalement, je vais voir, tu sais, je vais aller voir Dune, je vais aller voir tout ça. Mais pour moi, c'est en plus, c'est vraiment une bonne surprise ou pas. Mais genre l'année dernière, moi, mon grand plaisir, c'était Mon Crime. Il y a 10 ans pour parler d'un film plus connu, Au revoir là-haut.
Ah, oh, mais magnifique.
Moi, ce que j'aime bien, c'est quand, bon, le truc, il vient d'un roman de Pierre Lemaitre.
Qui est très bien.
Bon, voilà.
C'est un super roman.
Il est très bien, c'est bien écrit sur l'entre-deux-guerres, sur l'après-guerre. Bon, c'est déjà profond. Mais il n'empêche que Dupontel, et pour qui, pourtant, j'ai pas beaucoup d'admiration en tant que réel. Dupontel, quand il prend ça, non seulement il a un beau scénar et des beaux personnages, c'est déjà fait. Même le scénar, il parle d'art, tout ça, donc tu sais, en plus de son.
Visuellement,
truc,
tu vois.
Voilà. Il sait que visuellement, il peut faire un truc. Mais il n'empêche que dans sa façon, et je vous mets toutes les critiques sur YouTube, allez voir sur ce film. Dans sa façon, ne serait-ce que faire des plans, même si c'est extrêmement académique. Mm-hmm. Quand c'est le petit poilu là va voir dans la famille du bourgeois, etc. Mm-hmm. Et tu le vois écrasé entre Nils Astruc là déjà le père et des candélabres. Et lui dans son plan, il est tout petit. Alors ok, c'est du cinéma studio des années 70. Mais il n'empêche.
C'est ce qui marche mieux.
Il n'empêche que Dupontel a pris une œuvre, des personnages, un truc, il l'a fait à sa sauce dans sa mise en scène, et en plus il a fait un travail sur chaque putain de plan. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là je me dis, je vais pas juste voir l'adaptation de Au revoir là-haut, je vais voir un film de Dupontel.
Une vraie plus-value.
Et comme Mon Crime, j'ai bien aimé, parce qu'au-delà de l'histoire de deux jeunes femmes qui ont les dents longues et qui veulent réussir dans un truc en faisant un crime ou se faisant passer pour un crime, tu dis, bah en fait il a décidé, un peu comme Polanski avec Carnage, mm-hmm. il a décidé de te raconter son histoire en ayant un parti pris extrêmement théâtral, dans des plans extrêmement fixes, etc. Et tu dis, mais je vais voir une œuvre de cinéma. Je vais pas voir ni une histoire, ni autre chose. Tout ça est au service de l'œuvre.
Mais parce qu'on te respecte, et on revient là-dessus, on te respecte. Et tu n'as pas l'impression d'être pris pour un con, avec une BO qui est mal faite, avec une image qui est pas bossée, des effets spéciaux qui sont pas bossés, Jason.
Et pourtant, il a l'impression qu'on l'a pris pour un con quand il est allé voir Everything Everywhere All at Once. Alors que tu es justement en train d'expliquer, de décrire ce que c'est de la mise en scène, de la musique, etc.
J'ai pas eu l'impression qu'on m'a pris pour un con, j'ai juste dit que les ressorts qui font qu'on a aimé, et je regrette d'autant plus pas du tout que à cette époque-là en France, qui a gagné, c'est La Nuit du 12, et aux États-Unis c'est ça, que cette année c'est Anatomie d'une chute, et là tu fais un bond magnifique sur les cérémonies de César et les récompenses. Je trouve qu'on hiérarchise, c'est peut-être le meilleur film, mais c'est parce que toute l'année c'était de la daube.
Mais justement, on va en parler avec Damien, parce que on se retrouve dans un instant juste après ça pour discuter des cérémonies qui ont eu lieu il y a pas très longtemps, et je pense que Damien a 2-3 mots à nous dire là-dessus. À tout de suite. De retour dans la conve de Vaut mieux en rire avec ce débat très intéressant sur le cinéma et les cinémas. Qu'es-tu devenu, 7e art? Toi qui nous a enchanté par tes paysages, par tes musiques, par tes souvenirs.
On dirait ce que je raconte, commandeur, tu sais.
Quand tu parles des cinémas, moi ça me fait écho à... Il y a le cinéma qu'on regarde à la maison, sur son téléphone, sur son ordinateur, sur la télé, dans son canapé. Si, ça peut être du cinéma, ça reste du film, c'est du 7e art, c'est joli. Et t'as aussi, moi, l'endroit où je me sens le mieux au monde, à savoir dans une salle de cinéma, où il fait noir. Et là, on est dans une autre expérience. Voilà, je voulais juste rebondir
dans une communion.
Mais c'est l'expérience du cinéma.
Dans une communion, mais moi, j'y vais souvent seul.
Tu vas souvent seul dans les salles obscures?
Ouais.
Ah non.
Les caves, c'est considéré comme du cinéma.
Mais d'ailleurs, la fine différence entre un film et le cinéma, c'est notamment tout le système de récompense, parce que c'est en ça que tous les ans, on se retrouve autour du 7e art. Et je pense que Damien a 2-3 mois à nous dire là-dessus. Il a préparé une petite chronique.
Je sens sa chaleur,
un petit édito. Mais dis-nous, Damien, de quoi tu vas nous parler?
On a parlé un peu avec Jason. Tu vois, c'est pas parler des qui a gagné, qui n'a pas gagné, les films récompensés, les acteurs. C'est plus en fait le fait que les cérémonies en elles-mêmes, je crois qu'elles sont devenues un peu galvaudées. C'est-à-dire qu'en fait, t'as toute la préparation en amont où t'attends la révolution, mais pas par rapport au cinéma qui est produit, mais par rapport à ce qui va se passer, ce que vont dire les acteurs, les scandales qu'il peut y avoir autour. Après, là, on est tombé sur le paradoxe sur une cérémonie qui était assez consensuelle, mine de rien. Parce que,
à gauche, mais consensuel, oui.
Non, mais dans le sens où, en fait, le spectacle était dehors avec les pancartes féministes et les drapeaux de la Palestine. À l'intérieur, t'as eu rien de... Pas de vague, tu vois.
Ah non, mais sûr
et
que
au
non.
final, en fait, c'est des cérémonies maintenant où on parle plus... en fait, la politique n'est plus dans les films, c'est ce qui est autour des films. Et moi, c'est ça ce qui me dérange, c'est que les films sont plus assez puissants politiquement. T'as besoin d'avoir des discours à côté. T'as besoin d'avoir des revendications, très bien. Mais en fait, on parle plus vraiment de la technique et de la production. On parle vraiment des enjeux sociaux autour, on parle des fois même des choses qui dépassent le cinéma et qui n'ont aucun rapport avec les films. Donc c'est bien
Peut-être.
Mais est-ce que c'est pas l'image de la société qui est devenue comme
Tous les arts et tous les secteurs d'activité sont irrigués par ces enjeux.
Par de l'opinion.
Ouais,
en permanence.
Et ces enjeux sociaux.
Bah, figure-toi que je suis pas d'accord. Et je pense, pourtant, je sais que je suis critique, mais je trouve que les Césars, d'abord, sont à leur place.
Ah, ça, je suis bien sûr.
Ensuite, si les gens s'en servent de tribune, c'est comme d'habitude l'offre et la demande ou la visibilité. Là, si les gens s'en servent de tribune, c'est aussi parce que le cinéma a encore une très grande importance.
Non, mais d'accord,
en
mais pourquoi c'est toujours des gens de gauche, quoi? Et, bah, pourquoi il n'y a pas un mec de droite qui fait un discours au César? À un moment, ça va.
La situation.
Queneau, il a fait un discours de droite. Hein.
Queneau?
Raymond Queneau.
Raymond Queneau?
C'est pas Queneau?
Non, Raymond Queneau. Ah oui, le jeune là.
L'acteur Kénard, non?
Kénard.
Enfin, Kénard de droite, on arrête quoi. Non, mais en fait, bah, ça problème.
Si.
S'il y avait dans la même cérémonie à la fois un discours de droite, un discours de gauche,
t'as pas entendu le discours.
C'est la cour des miracles quoi.
Non, mais moi, c'est pas la question de. Pour le coup, c'est pas la question du placement politique du discours. Je m'en fous que ce soit de gauche. C'est en fait, c'est devenu une tribune politique, ces cérémonies. Et en fait, on parle plus du tout des films. Parce que justement, on en revient à ce que tu dis tout à l'heure, c'est qu'il y a un peu un marasme qui fait que c'est le bang au royaume des aveugles, tu vois. En fait, il y a tellement plus de films fournis que du coup, tu parles de ce qu'il y a à côté.
Ouais, mais tu vois, c'est là où, pour une fois, tu vas dans mon sens et je suis pas d'accord. C'est que.
Attends, je te suis, tes propos.
C'est que je me dis, il est absolument. Alors là, heureusement, on a un peu parlé de Dune, mais sinon, on parle du cinéma. Mais il est impossible de faire une cérémonie, encore plus de remise de prix, qui est quand même le truc le chiant par excellence. C'est impossible de le faire. En parlant de films sans les voir. Je veux dire, un film, tu le vois ou tu le vois pas.
Mais c'est pour ça que cette cérémonie fait 2 millions de téléspectateurs, parce qu'à un moment, tu capes, les gens s'en foutent.
Mais c'est aussi pour ça que, vu que tu ne peux pas parler d'un film, tu vas pas le faire en audio description pendant 3 heures. Donc forcément, tu l'utilises comme une tribune pour parler d'autres choses. Et je suis désolé, le politique a toujours quand même beaucoup été dans les films. Il faut voir encore Swan Arlo quand il a eu le prix de l'espoir, il y a quelques années, là, sur le paysan, là, qui était.
Rod Parado, pareil, il y avait le même sujet sur les enfants placés.
Je suis désolé, c'est extrêmement politique, tout ça. Et là, il y a du propos. Après, c'est de la demeure cinématographique. Oui, mais on s'entend. Ah oui. Mais il y a un propos.
On n'est pas à chaque année à attendre la révolution des Césars, mais ça, pas la révolution cinématographique, la révolution politique. Savoir qu'est-ce que ça va
par contre, c'est devenu un show. Mais comme le Super Bowl, c'est comme dire moi, je m'en fous du chanteur de la mi-temps du Super Bowl, on en oublie le sport. Non, il y a le sport, mais il n'empêche qu'on s'en sert aussi comme d'une tribune.
Et puis, je suis pas d'accord pour en revenir au César cette année, je trouve qu'il y a eu un consensus et que l'émission s'est extrêmement bien passée.
Ah bien, mais ça se passe très bien en vrai.
Le cinéma en France, oui, est un art de gauche et la manière dont le financer est extrêmement socialiste et de gauche.
Bah oui,
maintenant, dire que l'émission et le show en lui-même étaient de gauche, on a eu Judith Godrèche, on a eu pas mal de femmes qui ont parlé de ce qu'elle a vécu, etc. C'est pas de gauche.
Non,
c'est universel.
Mais moi, j'ai pas parlé de.
Il y a eu trois
intervenants. Bien compris mon propos.
Non, parce qu'il y a eu trois intervenants qui ont parlé de Gaza. Et qu'on parlait de ce qui se passe.
C'est pas de gauche.
Faut dire que c'est vachement à droite Gaza, c'est bien connu. Non mais, pardon, attendez.
Mais aujourd'hui en France, il y a quand même un consensus sur ce qui est en train de se passer là-bas, que ce soit à droite ou à gauche. C'est pas ouf.
Je suis pas certain. Mais. Non,
donc, le fait qu'il. Bah, je pense
non, mais
que si.
Dans ce cas, pourquoi il n'y avait pas des pro-israéliens aussi? En fait, c'est ça que je reprends. À chaque fois, je sais d'avance quelle est la connasse qui va sortir.
Parce que là, on n'est pas de pro-israéliens ou pro-palestiniens. Le sujet était. Si on arrive à faire en sorte que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se passer sur les terres gazaouis.
Les gens du cinéma se croient tous très importants.
Moi, j'attends pas ça des Césars, mais après. Et je suis pas en train de dire. Je m'en fous des couleurs, encore une fois. C'est pas ma question de ma couleur politique. Non,
mais attends,
ma couleur
en l'occurrence.
Peu importe d'ailleurs.
Mais en l'occurrence, je veux bien qu'on me dise on s'en fout de la couleur politique. En l'occurrence, vous dénoncez la couleur politique de gauche.
Mais pardon, Wissem, je suis le premier à toujours défendre des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. J'en ai marre de voir tout le temps dans ces cérémonies.
Ça, c'est
un conducteur prévisible au possible. Pardon, quoi.
Là où je défends Lucas, je suis désolé, c'est que tu regardes même l'émission Amiral. De ce podcast, tu regardes Vaut mieux en rire, il n'y a pas un seul quemé qui est sur la même ligne politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Enfin, je veux dire, il y a une diversité absolue.
Il y avait Rachid Hadassi.
Et c'est ce qu'a toujours aimé Lucas. Et moi, je m'en fous, je suis plutôt une petite âme de gauchias. Mais globalement, c'est vrai qu'il n'y a qu'un discours de gauche. Et c'est vrai, après, moi, je m'en fous
mais
un peu parce que on n'est pas non plus, on n'est pas sur France Info, il n'y a pas besoin d'avoir la diversité des trucs. Ce qui va rester dans les médias, c'est la déclaration choc de tu t'attaques à Riba Abdulmalak ou Ruffin qui a poussé son coup de gueule à l'époque. Bon, il était moins connu, mais. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là. Après, il y a une petite tolérance aussi. Et c'est pour ça que j'ai la tolérance sur.
Moi aussi!
Il y a un petit discours, même si je pense
que. C'est normal!
C'est la preuve aussi. Ça permet de montrer qu'ils sont complètement dans un monde déconnecté.
Non,
c'est
qu'ils sont faux ce que vous
dans
dites.
Leur petite. Attends, je finis juste ma phrase. C'est que s'ils parlent pas de politique, vu que tu ne peux pas parler en audio description d'un film, il n'empêche qu'ils vont redire les éternels poncifs de l'art est important. Oui, on a compris. Les essentiels, on a compris. Il fallait manger cinéma pendant le Covid. On a compris. Mais une fois que t'as dit ça, et c'est vrai. C'est vrai. L'art, vous avez pas, personne ici va me démentir. Le cinéma et l'art, globalement, est essentiel à une conscience.
Absolument.
Mais il n'empêche que quand t'as 15 personnes qui reçoivent un prix, si les 15 disent que ça, tu te fais chier comme un rat mort encore
plus. Pour la télé. Jason.
L'une Jason. Des trois personnes qui est intervenue pour parler de Gaza, c'est la réalisatrice qui a gagné pour le meilleur documentaire, pour Les Filles d'Olpha.
Fantastique.
Je ne sais pas si vous l'avez
fantastique
vu.
Film.
Ce film est
fantastique.
Dingue.
Fantastique.
Ce film est dingue. Et il parle donc de cette réalisatrice qui a décidé d'aller dans la famille d'Olpha, qui avait quatre filles et qui en a toujours quatre, sauf qu'il y en a deux qui sont en prison parce qu'elles ont décidé de faire le djihad. Et il y en a deux autres qui sont restées chez elles. Le film est impressionnant parce qu'elle met en place deux actrices qui vont rejouer des scènes de vie et qui vont interpréter les deux grandes sœurs qui sont emprisonnées. Ce film critique aujourd'hui les méthodes de l'État islamiste. Il critique énormément de choses. Bon, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, qui sont très très touchants. Et le fait que cette personne qui ait fait un film sur ces sujets
là, oui.
parle de Gaza...
Mais pardon, c'est pas le cas de tous les réels qui gagnent un César.
Non, mais par exemple, elle... J'ai trouvé ça extrêmement juste, encore plus justifié.
Parce que c'est pertinent.
Parce que c'est pertinent et parce que, bon, pour toutes les raisons que je peux avoir.
Non, mais c'est le sujet de son film, enfin de son doc. C'est comme celui qui gueulait sur, justement, le Swan Arlo, là. Celle qui a gagné, je sais plus quoi, sur ce film-là, ou même à l'époque, enfin bref, les mais problèmes attendez, de l'enfance et
doit,
tout ça.
Est-ce qu'on doit...
Il parle de ce sujet-là, c'est de la
mais
politique.
Arrêtez,
mais parce que c'est leur œuvre.
Est-ce qu'on doit assigner aux créateurs, forcément leur œuvre, et on doit conditionner leurs paroles à ce qu'ils ont pu explorer dans leur
non,
carrière?
Mais
est-ce qu'on va demander à James Cameron d'uniquement parler paquebot et alien?
Oui.
Non,
mais l'avis de James Cameron sur Gaza, je m'en
oui,
bats les couilles.
Exactement, mais d'accord. Moi, j'ai besoin de politologues, j'ai besoin d'universitaires, des gens qui bossent sur ce sujet. Moi, l'avis de Judith Godrèche, concrètement,
donc
même sur
pas, donc il n'y a pas Guernica. Il n'y a pas Guernica.
De quoi il n'y a
donc
pas Guernica?
Donc il n'y a pas Guernica. Dans votre monde, il n'y a pas Guernica.
Ça veut dire quoi, il n'y a pas Guernica?
Mais c'est-à-dire que Picasso ne fait pas Guernica.
Mais si, parce qu'il a fait une œuvre.
Mais
donc
non,
il a
mais
le droit d'en parler.
Mais en quoi? Mais pourquoi est-ce qu'il est plus légitime après pour en parler?
Mais non, il ne parle pas du sujet, il parle de son œuvre. Il parle du sujet.
Mais c'est pareil.
Mais si.
Mais c'est pareil.
Tu parles de ta vision. Quand tu fais un film, n'importe lequel.
Mais c'est pareil.
Non, tu fais un film n'importe lequel. Par exemple, un truc sur l'enfance, pour changer de sujet. Tu parles de la petite enfance, l'abandon, les services sociaux, nanana. Et ben, quand tu parles de ton film, du sujet de ton film, tu dis que toi, tu as vu ça. Souvent, ils ont travaillé avant, etc. J'ai vu ça dans mon film. J'ai voulu en faire ça. J'ai mis cet angle-là, nanana. Ta vision apporte une réflexion d'artiste sur le sujet, pas de politologue, pas de nanana. Bon, et eh ben
moi,
quand Judith Godrèche, enfin je dis n'importe quel nom,
non
on
parce
branle.
Que Judith Godrèche c'est autre chose.
Oui oui,
elle a
sûr,
parlé de sa propre
c'est,
vie.
C'est pour ça que je change.
Ouais.
Mais et pareil, c'est un témoignage personnel. C'est pas toute star que tu es, tout grand réalisateur,
tout dev que tu es,
il n'empêche que les artistes t'emmerdent premièrement, et il n'empêche que ton avis n'est pas plus éclairé que le mien. À partir de ce moment-là, je me branle un peu de ton avis.
Et là depuis
je l'entends, je l'entends.
Tout à l'heure, on parle de la légitimité des artistes à parler de ce genre de choses politiques. Fact. Mais en fait, quelles sont les conséquences derrière? Ces trois personnes qui ont parlé de Gaza, ça a servi absolument à rien.
Évidemment que non, parce
ça
que tout...
il est là
Judith
le problème.
Godrèche, qui a fait un discours entier sur sa relation avec le réalisateur et sur le problème dans le milieu
t'as
du cinéma.
T'as vu ce qu'elle a raconté après?
Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Énormément d'impact.
D'abord parce
ça
qu'elle
fait
parle
du bruit.
Pas à l'endroit où c'est important, c'est-à-dire dans le milieu du cinéma.
Bien
on est tous d'accord pour dire qu'il y a des violences sexuelles au cinéma. Mais rien ne change depuis 5 ans. Vous le voyez bien que rien ne change. Ils sont tous encore au pouvoir. Et d'ailleurs, après la cérémonie, elle a expliqué dans une interview, elle a été mise au coin de la soirée comme une pestiférée, parce qu'en fait, ce cinéma, c'est un milieu consanguin en France, qui est déviant, je le dis sans aucun problème, et qui fait semblant de ne pas entendre ce qu'on lui dit.
Oui, et je pense que son discours va permettre à tous les téléspectateurs et à tous les gens qui ont regardé son discours, parce qu'il a été vu par beaucoup plus que 2 millions de personnes,
plus que les téléspectateurs d'ailleurs,
de se rendre compte et de peut-être avoir un impact à quelconque mesure, je ne sais pas,
non,
de boycott
que,
ou voilà.
Je pense que c'est quoi à dire, mais dans 6 mois, on aura oublié.
Tu peux rien contre l'oligarchie.
Malheureusement, et je dis pas que c'est bien ou pas.
C'est faux, ça fait combien de temps, Gérard Depardieu? Ça fait combien de temps?
On a déjà oublié quasiment.
Absolument pas. Aujourd'hui, Gérard Depardieu est incapable de sortir un film.
Il
tournerait
plus.
On parle pas de Depardieu, on parle du coup de gueule de Godrèche.
Mais c'est sur ce sujet-là.
La seule chose,
c'est
je suis désolé, le seul
sur ce sujet-là.
Oui, mais Depardieu, on s'en souvient parce que c'est Depardieu, pas parce que le scandale en question. C'est là toute la différence. Polanski, on s'en souvient parce que c'est Polanski. C'est un immense réalisateur.
Mais Judith Godrèche, on s'en souviendrait si le réalisateur était connu.
En littérature, peut-être. En littérature, je suis désolé. Si on se souvient de Céline comme d'un nazi et de Aragon comme d'un résistant, c'est parce que c'est des gens brillants dans leur art,
ouais.
Et du coup c'est une star du domaine, et donc on s'en souvient. Bon bref, mais il y a peut-être aussi un problème, c'est que le seul discours politique dont on se souvient sur les 15 dernières années au César, c'est les gougouttes de Capitaine Marlowe. Il est c'est là vrai. Le problème, et en fait c'est de l'image d'ailleurs. C'est
de la ministre de la culture qui a fait une réponse,
Oui. Sans s'en rappeler. Sans savoir le sujet, d'ailleurs, on a déjà oublié. Pourquoi ? Parce que c'est des épiphénomènes. C'est des gens qui, d'ailleurs, c'est leur affiche publique. Parce que dans tout le reste, on les voit en tant qu'acteurs. Et on les voit, ils ont un texte, tu vois, attitré. Et on les voit très peu. Les interviews télé 7 jours, ça fait pas. Et du coup, ils ont que cette tribune-là. Et ils se rendent pas compte de leur microcosme.
Bien sûr.
Qui est regardé d'ailleurs sur Canal par Dipekno. Et globalement, il y a juste, ça va tourner sur Facebook et sur Instagram derrière le coup de gueule de une telle. Effectivement. Et ça dure deux jours et demi. La réalité, c'est qu'il y a Commander. Il y a que Commander qui sort tous les ans toutes ses œuvres et tout ça dans la mémoire collective.
Mais Godrèche a fait une très belle séquence. Elle a très bien fait de le faire. C'était très courageux. Oui. Il s'est passé quelque chose, je veux dire. Oui. Télévisuellement, il s'est passé quelque chose.
Elle parle d'un sujet dans lequel elle est.
Et elle parle des gens qui sont dans la salle, surtout.
Et le silence pourrait avoir été. On était sept en soirée avec des amis. On a regardé, enfin, on a parlé, on a rigolé toute la soirée. Les 10 minutes de Judith Godrèche,
j'étais très mal.
C'est un discours, comme c'est du vécu, c'est un discours qui est consistant. Donc forcément, ça te touche. C'est pas un discours creux, c'est un discours général.
C'est un discours sur un domaine qu'elle maîtrise, qu'elle connaît, puisque c'est son métier.
C'est son vécu.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Elle commence par regarder la salle, je crois, et elle dit « Vous m'entendez, mais vous ne m'écoutez pas. »
Non, mais c'est très fort.
Déjà, par contre, c'est juste mal dit. On dirait Malraux quand t'es Jean Moulin.
S'il y a bien quelque chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est le dicté de sa.
C'est assez bien écrit quand même. Ouais.
C'est bien écrit mais mal dit.
Très belle séquence, mais là encore, et je suis ravi pour elle qu'elle en ait parlé, et c'est très bien qu'il faut que ça change.
Et c'est très courageux.
Mais on a parlé de cinéma à aucun moment dans cette putain de cérémonie.
Très courageux de la part de l'Académie des Césars.
Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à dire ?
En tout cas,
c'est ça la question.
Pour conclure, conclure sur mon propos sur cette cérémonie, c'est que moi, l'art est politique par son œuvre, par l'œuvre qu'on crée.
Je suis d'accord.
Et pas par les discours qu'on peut avoir autour. Moi, je pense beaucoup plus marqué par un film politique sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma que par un discours d'une actrice qui avait.
Il y en a eu plein quand même. Enfin, il y a eu L'amour et les forêts ou qui a été nominé.
Il y a eu un âne, ça trompe énormément.
Ça marque plus et ça pourrait. Moi, ça me.
Il y a eu Le consentement.
Exactement. Et moi, ce film-là.
Donc il y en a beaucoup qui créent de la conversation.
Mais l'art est politique par son œuvre d'art. Comme dit Guernica, ça me toucherait plus que si Picasso, qui avait rien foutu de sa vie, parlait de la guerre civile en Espagne.
D'ailleurs, il y a un film très intéressant qui sort, un film italien en noir et blanc, qui s'appelle C'è ancora domani, il y a encore demain, qui sort dans moins d'un mois en France, qui a retourné l'Italie, qui est sur le sujet des femmes battues.
Pour résumer ton sujet, Wissem, je vais vous expliquer ma théorie du buffet chinois que mon professeur Jean-Pierre Ducéo m'avait appris en master. C'est le producteur de Léo Mattei, qui a vendu Léo Mattei.
Mais
grand réalisateur.
Il a vendu Joséphine Camping Paradis. Enfin, tous les gros téléfilms,
d'accord,
en gros,
c'est. Est-ce que c'est légitime pour parler d'art ?
Oui, parce que tu vas très vite comprendre. L'analyse est très bonne sur le contenu. Je reviens au contenu parce que c'est mon obsession.
Mais non !
Il parle du syndrome du buffet chinois. Quand tu vas au buffet chinois et qu'il y a 150 plats dans le truc du milieu, il y a tellement de plats qui te donnent envie ou pas, souvent pas envie d'ailleurs parce que c'est du surgelé, qu'en fait tu ne prends rien ou tu ne prends qu'une seule chose, c'est le truc qui te rassure, c'est-à-dire le porc au caramel que tu connais par cœur.
Moi je mange tout.
Et le cinéma, on est là aujourd'hui en fait. Le contenu, on est là aujourd'hui. Oui, mais toi, bon.
Non mais t'en viens
c'est
un peu.
C'est ça l'analogie.
T'en viens un peu à l'abondance. Tu sais, on disait ça des réseaux sociaux il y a quelques temps, ou l'amour ou tout ça. L'abondance fait que finalement tu finis par te regrouper. Alors dans les réseaux sociaux c'est par communauté ou par goût d'intérêt.
Ouais.
Dans
opinion.
Le cinéma c'est dans
par
ce que tu préfères.
Sur les réseaux sociaux par opinion. Par opinion.
C'est terrible.
L'art algorithmique.
Oui.
L'art algorithmique.
Économique.
C'est quand tu arrives et que on va te proposer quelque chose qui doit forcément te plaire.
C'est pas ça.
On ne peut plus.
Non et surtout quelque chose qui conforte dans ton opinion.
C'est ça. On ne peut plus. On ne peut plus parce qu'on refuse, et ça boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les discours qui peuvent être divergents. On est en incapacité aujourd'hui d'écouter quelque chose qui ne nous plaît pas.
Ben voilà.
On est en incapacité de ne pas aimer. On ne peut plus ne pas aimer. Alors qu'à l'époque, quand t'allais au cinéma et que tu payais 10 euros, t'étais obligé, à un moment donné, de finir le film. À un moment donné, t'es dans la salle, c'est beaucoup plus engageant d'être dans une salle de cinéma assis, entouré, parce qu'il y a une espèce de communion et que forcément t'es beaucoup plus engagé que à une touche de télécommande d'arrêter ce que tu
fais.
Et ça explique tout le reste. Ça explique la qualité des films de streaming qui sont en chute libre et qui ont changé la manière dont on voit les films. On les lit maintenant. C'est comme si on lisait un livre.
Oui.
On lit un livre et on veut absolument avoir
consomme.
Du dialogue. On veut avoir un twist, même deux, trois, quatre parfois par film.
On lit un mauvais livre. Bon livre, il n'y a pas de twist.
On ne peut plus regarder.
C'est Dumas qui gère bien les twists en littérature.
Proust, il n'y a pas de twist.
Regarder, écouter, prendre du temps. C'est à l'encontre de l'algorithme.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas le temps de tout ça.
Mais c'est terrible.
Ça va à l'encontre de la consommation. Et en ça, ils ont tué une partie du cinéma.
Mais les gens ont soutenu, pardon. Hein. personne n'est obligé d'être abonné à Netflix. Moi, je suis pas abonné à Netflix personnellement, je ne soutiens
quand,
pas ça.
Mais quand ça coûte 10 euros et que la place du cinéma coûte 18 euros.
Mais si ça, c'est le vrai argument, c'est que le cinéma est devenu très cher.
Il y a deux choses. Il y a le premier, c'est le cinéma chez soi, encore une fois, le cinéma au cinéma. Chez soi, oui, ça a tué, et c'est le buffet chinois. Au cinéma, c'est pas vrai. Tu regardes sur les 15 dernières années, il y a à peu près le même nombre de films qui est sorti chaque année.
Ah, ça, c'est vrai, oui, bien sûr.
Et ensuite, y a, la deuxième chose, c'est notre esprit critique. Il y a encore quelques années, quand on allait au cinéma, il y avait une universalité avant Internet, avant les réseaux sociaux, quand on allait voir quelque chose, on aimait aussi parce qu'il y avait un phénomène et qu'il fallait qu'on aime. Et quand tu dépensais 15 euros, que tu allais au cinéma pendant 2 heures et que tu y allais qu'une fois par mois, tu y allais déjà en te disant je vais aimer. Je vais aimer.
Comme, comme toutes ces grosses licences des années 80, pardon. Oui. Hein. Jurassic Park, tu y allais parce que l'ambiance était bonne.
Complètement. Et aujourd'hui, moi par exemple, moi qui vais voir presque un film par jour, je vais pas du tout voir un film en me disant je vais aimer. Je vais voir un film en me disant qu'est-ce que je vais en sortir.
Non, mais c'est marrant.
Mais pour envoyer une petite pique un peu salace, toi qui es le plus amoureux du cinéma autour de cette table.
Jason, pardon.
C'est pas l'image que
j'ai l'impression que tu ne me pardonnes pas, et je le dis très sincèrement avec le sourire, j'ai l'impression que tu ne me pardonnes pas de ne pas avoir aimé l'Oscar de l'année dernière. Comme si tout le monde devait, et je te le dis sans méchanceté, hein, mais c'est, ça fait écho à ce que tu dis, comme si tout le monde devait avoir aimé ce chef-d'œuvre du multivers qui est Everything Everywhere.
Très sincèrement, j'ai adoré le film, je n'aurais pas donné un Oscar.
Mais voilà. Tu vois, j'ai l'impression qu'Anatomie d'une chute, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que sous prétexte que je n'ai pas aimé un truc qui est aimé par tout le monde, qu'il faut aimer même les Amerlocs, imaginez-vous,
Jason,
les Amerlocs.
Qu'est-ce que t'en penses, Jason?
Et ben, ce que j'en pense pour
t'es
avoir,
mis au banc.
Pour avoir réécouté la séquence et vu la vidéo de il y a quelques semaines, ouais. Je ne te reproche absolument pas de pas aimer, je trouve ça génial d'avoir tes propres goûts. D'ailleurs, je suis moi-même, je n'ai pas vu Koda qui a gagné l'Oscar du meilleur film.
Non, mais
film
les goûts et les couleurs, faut arrêter avec ça aussi. Hein.
Complètement, chacun aime ce qu'il veut.
Oui, mais
ce
non,
que
mais
je peux reprocher,
arrêter,
c'est ton manque aussi, de balance. Et il y a trois semaines, t'as pas dit que Anatomie d'une chute était moyen ou que t'avais pas aimé. T'as éclaté de rire en disant que c'était une grosse merde et tu l'as dit trois fois.
Non, j'ai dit que c'était un mauvais téléfilm.
Non, t'as dit que c'était une grosse merde.
C'est moi.
Et on peut réécouter. T'as dit que c'était une grosse merde. Et c'est là où dans ces cas-là, oui, je ne peux pas te pardonner de dire qu'Anatomie d'une chute est une grosse merde.
J'ai le droit de dire que Anatomie d'une chute est une grosse merde.
Et quand même dire même,
je peux le répéter, tu vois.
Bien sûr, et j'ai le droit de penser que c'est nul de penser ça.
Anatomie, c'était juste une divergence de mon propos, mais je disais surtout Everything Everywhere. Et là, j'étais beaucoup plus, j'ai moins fait le spectacle. J'ai juste dit que au-delà de la scène, la seule réussite de la scène, c'était le God. Bon, peu importe. Mais j'ai dit que pour être plus sérieux, le multivers avait énormément d'incohérences. C'est pas parce que non. C'est du multivers que t'as le droit d'être incohérent pour
mais
autant.
Par principe, le multivers est forcément incohérent.
Oui, mais tu pars de. Oui, non, mais c'est comme
oui,
Matrix.
Mais évidemment.
Sauf que Matrix a une certaine cohérence.
Oui, d'accord.
Et donc, je n'ai pas aimé cette cohérence en trouvant plein et en trouvant que les acteurs étaient pas ouf. Pourtant, il y avait des super plans.
Je trouve que c'est moins incohérent le traitement du multivers dans Avengers, en tout cas dans les Marvel, que dans le film.
Si tu compares à Marvel, non, forcément, t'as
fait un
César tous les deux.
C'est beaucoup plus cohérent et beaucoup mieux abordé que dans le film Oscarise.
Et sur ce film-là, on a quand même récompensé à l'époque, il y a un an, le fait que ce soit pas réalisé par un Américain, pardon, parce que quand même il y avait aussi ça. C'est aussi ça le problème des cérémonies maintenant, c'est qu'on récompense aussi ce que ça représente.
Le contexte. Oui.
À l'actrice principale.
Pardon, sans Michelle Yeoh et sans le réalisateur asiatique, je suis pas certain que le film ait eu un Oscar. Mais de la même façon que, pardon, hein, Anatomie d'une chute réalisée par un homme, c'est même pas nommé, tu m'entends? Je le pense très sincèrement.
C'est surtout pas écrit comme ça.
Oui, bah oui, d'accord, peut-être mieux du coup.
C'est surtout pas écrit comme
ça.
Mais
tu vois, enfin, moi je pense aussi que c'est ça
d'accord.
Le sujet.
On va vous mettre d'accord, puisque dans un an on refera une conve de MER et on sera tous très heureux de fêter Best Picture Dune Part 2, parce que je vous le signe, l'année prochaine Dune est Best Picture.
Non, il aura que les meilleures visions.
Il aura meilleure réalisation.
Non, mais il a déjà eu ça sur le 1.
Il aura 3 nominations techniques, il va en gagner 2.
Non, vous
le problème,
verrez.
Le problème c'est que tu
Dune est Best Picture, vous verrez.
3
Dune
nominations
sera
techniques
best
de gagner.
C'est tu sais que c'est orgueil.
Meilleur catering, ils vont avoir.
Oui.
Meilleure cantine.
Il aura Enzimer. Il aura photographie,
voilà.
Il bien sûr que si. Il aura Enzimer. Bien sûr que si.
Enzimer, tu sais pourquoi Christopher Nolan ne travaille plus avec Hans Zimmer depuis ces deux derniers
parce
films.
Parce qu'il fait la même chanson depuis
15
ans.
Et avec Ludwig Göransson.
J'y vais ou pas?
Parce que Hans Zimmer fait la même chose depuis 10 ans.
Mais non, parce que justement, il faisait Dune Part 1 et qu'il était plus dispo pour faire Tenet.
Et en plus, cette année, il y a Gladiator 2 qui sort avec Hans Zimmer et je pense que c'est plutôt ce film-là qui sera dans les
non,
musiques.
Non, moi je pense que c'est.
Laissez-le parler.
Dune Part 2 qui aura
on
l'Oscar
note,
du meilleur de la
on
meilleure
record.
Musique. Cinématographie Dune Part 2 et Best Picture. Best Picture, Jeanne. Dune Partout.
Ah non, on n'est pas un quart de l'année. Hein, donc
le mec il me pousse à dire des
Non, mais moi, ce qui me tue, c'est que...
Best Acteur,
c'est qu'on a vu aucun film.
Robert Pattinson dans Mickey 17.
Il paraît que c'est horrible. Le studio est très déçu. Le studio est très déçu.
Non, il y a Michel Yao qui a pété dans une interview. Je pense que...
Tu vois pourquoi je ne te le pardonne pas? Pour ce genre de réflexion.
Michel Yao.
C'est
même pas son place. En tout cas, vous verrez.
Non, mais je veux juste dire sur toi, c'est que on a l'impression que Wissem ne nous connaît pas.
Oui.
Moi, ça me flingue. C'est-à-dire que il te survend d'une. Maintenant, ça va devenir de Best Picture. J'arrive pas à dire.
Mais on adore
Of the Year, le film d'une génération. Nanana.
Wissem, t'es
il est en train de nous sortir. Plus là, si on continue l'émission une demi-heure, ils vont tout rafler au César. Ça va être Titanic, le truc. Et le pire, c'est que nous, du coup. Déjà qu'on est, on a déjà dit pendant problème. Une demi-heure qu'on est extrêmement exigeant, surtout sur les films comme ça. Là, t'es en train de nous le vendre comme en plus étant un Oscarisable. Du coup, nous, on va aller le voir comme un Oscarisable et on va le défoncer dans la semaine prochaine et tu vas faire la gueule.
C'est vrai.
Tu nous connais pas.
C'est toujours la même chose.
Est-ce que tu vas aller le revoir?
Bien sûr.
Pareil.
Voilà, bon, j'ai pas le temps parce que je. Voilà.
Wissem
mais... Oui.
Il est temps de signer le clap de fin.
Ouh.
Putain, c'est la chose la moins con qui est dit du podcast.
Eh oui, c'est la fin parce que ça fait plus d'une heure qu'on discute avec vous du cinéma.
Tu veux encore un petit taquet sur Justine Triet? Bonnie, je te l'offre.
Vas-y.
Non. Alors, j'explique enfin ce que j'ai pensé de ce film. J'ai jamais expliqué pourquoi je l'avais pas vu.
Tu sais que tu le couperas.
Au pire, tu couperas. Et de toute façon, je suis plus intéressant que les autres. Tu le sais très bien, je donne moi à l'antenne. Tu le sais très bien.
Toi, tu mérites ta
pige. Un peu trop d'ailleurs, tu donnes.
Tu m'aimes ou tu m'aimes pas, mais à l'antenne, je rends. Il y a 2 millions qui sont là.
La pige.
Je trouve que dans tout ce film, tout ce que Justine Triet veut te raconter est raté par la mise en scène.
Ouais.
L'enfant malade, on n'en parle pas. Le mari et la meuf, en fait, à la fin du film, je me dis, mais je vais en prendre de vos problèmes de bourgeois.
La réussite féminine, il n'est pas abordé le sujet. On te dit que si, mais pas du tout.
En fait, à partir du moment, si tu commences à lancer des trucs, explique-les, détaille, raconte. Là, en fait, elle a fait un espèce de melting pot de ce qui marche en ce moment, c'est-à-dire un divorce,
judiciaire.
Tous les films, c'est ça.
Un procès.
Elle a fait très mal joué d'ailleurs, au passage, l'acteur n'est pas bon du tout.
C'est un Hercule Poirot, son film.
Oui, voilà. C'est bien ce que je te dis.
C'est un
téléfilm allemand.
C'est un Hercule Poirot.
Sandra Müller est super, c'est une super actrice, je l'ai
Sandra
toujours dit.
Sandra Müller, Queen.
Non, mais elle est super. Oui. Mais c'est la seule chose qui sauve ce film. Pardon, excusez-moi.
Oh, le
ni
chien.
La réal,
le chien.
Ni la mise en scène, ni le scénario. C'est parce faux. Que ça tient sur c'est un papyrus, hein, le scénario.
Même ils ont raté, tu sais, la scène de fin après le procès.
Mais oui.
La scène où ils fument dehors, où il n'y a rien. Et pourtant, moi, ça, c'est ma cam de cinéma, tu vois. Quand il se passe rien.
Ça, dit tout.
C'est du Dolan.
Dolan te fait ce film-là, c'est un chef-d'œuvre.
Et bah là, il se passe rien, mais au sens propre du terme. Alors que tu dis pas, il y a des non-dits, il y a des trucs. Non, c'est entre elle et son avocat. Ils ont vraiment rien à dire, ils fument dehors.
Et je suis colère, c'est ça que parce que Justine Triet, elle a des choses à dire sur la. Pour le coup, je pense vraiment que cette nana est intelligente. Dans toutes ses interviews, elle est assez smart. Pour l'instant, je trouve qu'elle n'arrive pas à traduire son idéologie et son talent dans ses films. C'est mon avis. Et je suis pas seul à dire parce que depuis quelques jours, je vois pas mal de critiques négatives.
Je vais dire ce que j'en pense. Je pense que.
Donc, tu vois, c'est pas tout moi tout seul.
Ça fait un succès. Du coup, les gens qui sont pas fans de cinéma vont le voir et souvent disent, ça vaut pas le battage.
Je veux dire ce que j'en pense. Je pense que la France s'en fout.
De quoi?
De ce film.
Mais évidemment qu'elle s'en fout.
Mais non, je pense que la France, elle va voir parce qu'elle entend beaucoup parler de ce film. Et la France, elle se dit, ah, je vais voir un film. Et en fait, non.
Non, en plus, c'est un film français qui marche à l'étranger. Du coup, on va se dire, on va aller le voir pour avoir un avis dessus et pas être bête en soirée.
C'est une cata. Enfin, moi, j'ai pas aimé du tout.
Bon, voilà.
Non, mais en fait, on a passé un bon moment. J'ai regardé chez Adrien. Adrien m'a dit, oh, faut que tu regardes. Il l'avait déjà vu.
Après, c'est bien d'avoir un expert avec toi.
Non, mais il l'avait déjà vu et il m'a dit, super.
Du coup,
il
a fait autre chose.
Regarde-le.
Anatomie d'un cul.
Oh, mais arrêtez. Vous êtes saoulant. On a regardé ça et c'est vrai que moi j'ai mis ça. Je me suis dit c'est Miss Marple quoi.
Mais voilà.
Moi j'écoute les
j'ai adhéré, mais pourtant on est tous d'accord.
C'est
les couleurs.
C'est
criard.
Non mais il y a rien. Je suis désolé. Hein. Après tu passes pas un mauvais moment. Hein. Wow. Mais je me suis dit il y a pas un twist. Il y a un twist.
C'est un divorce quoi.
Pour résumer, et pour moi c'est le même critique et on arrête là.
En tout cas, j'arrête là.
C'est l'année dernière, la nuit du 12.
Super. J'ai bien aimé
moi j'ai dit à mes parents et on est fan de tout ce qui est judiciaire forcément. Ouais. Enfin on est matrixé par ça et je leur ai dit mais en fait j'ai même pas vu dans ce film qui est pas dégueulasse mais j'ai même pas vu dans ce film un épisode d'une saison de 12 épisodes d'Engrenage. ni dans le scénar, ni dans le jeu, ni dans les vocations, des problèmes, et tout ça. C'est un vulgaire téléfilm de policiers, merde, quoi. Ouais. Et ça, et du coup, là, ça fait 2 ans que les Césars nous sortent la même demeure policière. Alors là, c'est plus judiciaire. Mais c'est le même sujet. Et il n'y a rien qui est abordé. Et il n'y a aucun effort de cinéma. Ouais. On te raconte une histoire. Pas très bien d'ailleurs. Et en plus, il n'y a aucun effort de plan de tout ça. Si la nuit du 12, il y avait 2-3 plans fixes qui m'ont un peu touché la. Ouais, j'avoue.
Bon, bah, en tout cas, vous pouvez regarder tout ça. C'est sur ma canal. Hein.
Et allez voir.
Si vous êtes abonné.
Sans jamais nous connaître.
Support the movie. Celui-là, j'ai envie
d'aller
bousculer.
T'as pas aimé? C'est vrai? Mais tu vois, ça, c'est genre de film qui répond pas aux mêmes choses chez les mêmes gens.
Mais oui,
c'est génial.
Il y a deux twists.
Chacun a ses références aussi pour accueillir un film.
Oui, non. Je te dis, moi, il y a très peu de choses qui m'ont touché récemment.
Il y a que Dune, quoi. Il
y a eu Jordan Deluxe, hein, en avril.
Il y a ma main, ouais, aussi.
Lui, c'est fou. Il y a que les blockbusters de merde. Et genre Avatar, il t'en a parlé 15 000 ans. Je l'ai vu. J'avais envie de me suicider d'avoir perdu 1h30 de ma vie.
Non, Avatar, c'était un beau spectacle.
Mais mon Dieu, même.
Tu l'as vu au cinéma ou chez toi?
Arrêtez avec ça.
Il l'a vu chez lui, évidemment.
L'eau,
je vous mets ma main à couper. Vous me traînez de force dans un MK2 ou que sais-je. L'eau, elle est mal faite, point barre.
Non,
les mecs, ils ont mis 250 briques.
Il a raison.
Elle est moins bien faite que dans Star Wars
God of War.
Sur PS2.
Le dernier God of War est mieux fait. C'est ça la vérité.
Mais arrêtez,
c'est ça qui vous fout le seum parce que vous voyez bien que ça ressemble à des Sims en 2004.
Parce que vous avez envie d'aimer les films avant d'avoir vu les films.
Non, c'est pas vrai.
Voilà. Bonne journée. Le problème, c'est l'objectif.
C'est complètement faux. Et on l'a démontré je ne sais combien de fois pendant cette émission. Et on laissera des auditeurs.
Est-ce qu'on peut mettre une story ce soir ou demain? Demain. Tu mets une story sur êtes-vous plus Team Alex Lucas tu vois, ou après
ça,
tu
problème.
Mets un petit logo
on va se prendre à 90%
ou si vous êtes plutôt Damien, c'est-à-dire sans goût, vous mettez un message en dessous,
vous en faites un débat de personnalité et d'identité, alors que moi je trouve ça enrichissant d'entendre
ça. Sera coupé, on sera coupé, je suis désolé.
Ferme ta gueule, Jason.
Non, mais je comprends. Laisse-les. Franchement, c'est des haineux.
Ils vont couper à Dune.
C'est des haineux.
Le podcast va durer 15 minutes en fait. L'énorme arnaque.
Oui, allez voir Dune.
Et comme dirait Paul Araki,
silence.
Il remonte les voix et tout le monde dit on a adoré Dune.
Oui. C'est bon. Allez le voir.
Ouais, c'est ça. Non, mais merci d'avoir été avec nous. On a fait un peu plus long là. On s'est bien amusé. Comme toutes les semaines, on espère que vous avez appris des choses, que vous avez appris des choses sur nous. Et aussi sur la vision qu'on a de la société. Hein, parce que
encore passé pour des cons.
C'est aussi ça, l'utilité de la conf. Merci pour le succès que vous nous avez donné la semaine dernière. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve donc dans le prochain épisode de la conf. Et n'hésitez pas à streamer les épisodes précédents.
Et n'hésitez pas à nous envoyer des thèmes si jamais il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute.
Grand plaisir. Et même des films, si vous voulez que Jason aille voir un film en particulier pour avoir son avis, vous n'hésitez pas.
Il y a suffisamment assez de travail comme ça.
Honnêtement, je pense qu'à terme, si la conve prend ses ailes, prend son envol, vu qu'on a déjà fait le thème cinéma et globalement les thèmes généraux, on va les avoir pliés en 6-4 mois, j'allais dire. Bref, derrière, si les gens veulent qu'on fasse vraiment une heure sur un thème très spécifique, mais plus spécifique, genre soit sur un film, soit sur une personnalité ou n'importe quoi.
Les Oscars, je pense qu'on fera on fera les Oscars.
Mais déjà, je vous annonce, avant juin, il y a un deuxième épisode sur l'espace et les extraterrestres. Non, mais ça, c'était exceptionnel.
Je veux en être.
Ah non, mais c'était exceptionnel. On a passé une heure incroyable, donc on refait les extraterrestres
je
avant
en être,
juin, bien sûr.
À condition qu'en découvrant le podcast de la semaine dernière, du coup, je n'entende pas la moindre personne, je dis bien la moindre personne, qui ait dit moi, ce qui est fou, c'est que. En fait, je me rends compte qu'on est rien face à ce type.
Mais c'est vrai.
Il y a quelqu'un qui a dit ça?
Non, je pense pas.
Non, on l'a dit en substance.
On était plus profond. Non, excuse-nous. Hein.
J'espère. Parce que si c'est ça, c'est
le niveau de Kian Kou.
C'est vous
qui avez dit.
Moi, c'est ce qui fait que je vais chez le psy depuis 15 ans, en fait, tu vois. Donc,
mais moi, je suis pas venu là pour entendre Kian Kou Jandi faire des vidéos sur YouTube.
Merci d'avoir été avec nous. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
J'ai élevé tes gosses.
Oh, voilà. Voilà, super. J'ai élevé moment.
J'ai élevé moment.
On a passé une heure de respect.
Oui. Merci à tous d'avoir été avec nous.
Tout
et à très bientôt.
La conve de Vaut mieux en rire.